peine.
Au revoir.
Donc, oui, donc on avait choisi d'évoquer la question cubaine, d'intituler notre forum Retour de Cuba, en référence à Hollande, qui est maintenant revenu de son voyage d'affaires à Cuba, juste après que le président Obama ait déclaré, conjointement avec son homologue Raúl Castro, une normalisation des relations entre les deux pays. Alors évidemment, Cuba, c'est la révolution cubaine, oui, c'est exactement la révolution cubaine qui nous intéresse. Eh bien, cette révolution confère d'un véritable mythe dans le mouvement ouvrier, dans l'extrême gauche, du moins une grande partie de l'extrême gauche et du mouvement communiste. Et les différents changements, les différentes transformations en cours à Cuba depuis les années 90, eh bien pose bien des questions sur le caractère du régime cubain, sur l'avancement du socialisme à Cuba, l'avancement de la révolution socialiste à Cuba, ou bien sur une transition une transition vers une restauration capitaliste, hein, un petit peu sur le modèle vietnamien ou chinois. Alors, pour aujourd'hui, on va essayer d'imiter l'exposé à une vingtaine de minutes. Si on peut faire moins, on fera moins, de façon à laisser le maximum de temps à des questions-réponses et à une discussion ouverte sur la question. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire un petit peu un récit, un retour sur ce que nous avons pu voir, puisque nous avons été plusieurs camarades à être allés à Cuba pendant plusieurs semaines. Et écoutez, la première chose qui est marquante en arrivant dans ce pays, c'est l'état épouvantablement dégradé de la Havane, de la ville de la Havane. Et ce simple fait est tout un révélateur du régime cubain. Alors évidemment, l'embargo a été épouvantable. L'embargo a signifié une chute du produit intérieur brut du pays. Cuba qui s'inscrivait dans une division du travail avec les différents pays du Comecon, les différents pays de l'Union soviétique et du bloc de l'Est, a vu l'ensemble de ses approvisionnements en pièces industrielles, en aliments pour bétail, en produits alimentaires coupés brusquement. Donc ce qui a signifié une chute très brutale du niveau de vie, ce qui a signifié un arrêt quasi complet des quelques industries existantes, une chute brutale de la production de lait, de viande, de canne à sucre. La canne à sucre qui était restée le principal produit d'exportation du pays, qui permettait d'avoir des devises. On reviendra jamais assez sur l'impact de l'embargo sur le niveau. L'embargo américain. ces fameux textes Fidel Castro, qui se défendait lui-même contre ses juges et contre le procureur du régime de Batista. C'était après la tentative de prise d'armes à la caserne Quintana. Affirmait qu'il y avait assez de pierres à Cuba pour offrir à chaque famille cubaine un foyer à logement. Alors effectivement, si promesse a été tenue, chaque Cubain a un petit chez-soi, fait de quelques tôles, avec souvent, la terre battue en guise de sol, dans les campagnes, l'ensemble des logements, enfin, la majorité, 80% des logements sont quasi sinistrés en fait. Il y a des enquêtes sur l'état des logements à Cuba, et on estime à plus de la moitié des logements, dont les murs sont fissurés, qu'on peut considérer évidemment comme complètement insalubre. Même des logements qui paraissent des logements habités par des gens qui ont certains moyens, sont épouvantablement humides, sont épouvantablement dégradés. Le régime a fait peu de cas de la satisfaction d'un besoin pourtant essentiel, qui est celui de se loger. Et le contraste est grand avec, dans le pays même, ceux qui peuvent se loger, qui se logent très convenablement. Qu'est-ce qu'on nous a dit quand on questionnait sur les quartiers les plus riches qu'il y en avait? On nous a dit, mais bien sûr, il y a des quartiers huppés. Allez voir à la Playa, quartier de la Playa à Laval. Donc on est allé au quartier de la Playa à Laval. Effectivement, au quartier de la Playa à Laval, nous n'avons pas retrouvé les ruines qui peuvent être celles des centres-villes, des villes cubaines de la Havane, de Santiago ou d'ailleurs. Des maisons proprettes, refaites sur le gazon, ce genre de choses. Ce qu'on n'a pas vu, c'est des quartiers huppés qu'on ne peut pas voir, parce que la police nous arrête avant d'y accéder. Et ce qu'on n'a pas vu non plus, c'est les quartiers qu'on n'a pas pu voir, et donc personne ne connaît l'existence. Et ces quartiers-là, il fallait les repérer sur Google Maps. On peut le faire de France, mais pas de Cuba. L'accès à Internet étant très limité. Quand je dis très limité, c'est-à-dire qu'il y a seulement certaines catégories de la population qui ont droit à une connexion, qui s'explique aussi pour des raisons techniques. Les États-Unis bloquent l'accès à ces télécommunications, mais pas seulement. La connexion au réseau étant épouvantablement chère pour le public, puisque ça correspond à peu près à un quart de salaire mensuel, la connexion d'une heure correspond à peu près au quart du salaire mensuel d'un employé moyen. Donc évidemment, c'est une très petite minorité de la population qui a accès à ces informations, et encore dans les différentes boutiques la question du logement à Cuba, on voit ces inégalités qui apparaissent comme absolument flagrantes. Des inégalités au sein du peuple, on va dire, entre les 10% les plus riches et les 80%, les 10% les plus riches et les 80% de la population, et puis des contrastes encore plus saisissants entre quelques milliers de militaires du régime, de l'armée, de la bureaucratie, d'État, du parti, hein, et le reste de la population, et parmi eux, évidemment, la fortune du leader Maximo, d'en être peut-être propriétaire, on ne peut pas le savoir, en tout cas à l'usage non seulement d'une grande villa à La Havane, mais aussi d'une île personnelle, près de la baie des cochons, avec aquarium pour dauphins, et c'est là aussi où sont affrétés deux de ces yachts, le pionnier 1, le pionnier 1er, le pionnier 2e. Fidel Castro, qui est si habitué aux parties de pêche sous-marine, qu'on raconte que la CIA aurait miné un des coquillages, il a échappé de peu à un attentat. On parle un petit peu du logement parce que ça paraît symptomatique. On parlera dans le cadre de la discussion d'un autre sujet, à votre plaisir. Pour revenir sur cette question des inégalités, qui me paraît absolument centrale pour comprendre Cuba aujourd'hui, mais aussi combat Cuba hier, les différenciations sociales dans la société avec le développement d'une économie de marché et avec la restauration progressive et limitée de formes de propriété privée à des moyens de production et d'échange. Donc les différenciations sociales sont fortes à tous les niveaux, au niveau du salaire par exemple. Un ouvrier, il va gagner 200 pesos, l'équivalent de 20 dollars. C'est-à-dire vraiment pas grand-chose, quoi. C'est-à-dire que quand on rapporte le prix des produits de première nécessité, pour vous donner une idée, le salaire de l'ouvrier moyen, il permet d'acheter 20 canettes de bière. C'est 20 canettes de bière. Évidemment, le salaire ne dit pas tout sur le niveau de vie de la population, puisque vous avez un système de rationnement avec les carnets de libretta, qui offre à chacun l'équivalent de 2,5 kg de riz, 2,5 kg de sucre, par exemple, par mois. Si le salaire ne dit pas tout, le salaire et ce carnet de rationnement en dit beaucoup plus et rien de plus réjouissant. Donc au niveau des écarts de salaire, par exemple, on a des écarts qui vont de 20 pesos, 200 pesos national pour l'ouvrier moyen, 20 dollars, à 700 pesos national, qui est un peu plus du double, un peu plus du triple, pour un juriste ou un urbaniste. 1000 pesos national pour un balayeur. Le balayeur qui va être payé à peu près autant que le professeur. Des salaires qui vont monter jusqu'à 2000 pesos national pour le médecin. 3000 pour le colonel. 5000 pour le général. Et alors quand on demande à l'homme de la rue, il y a beaucoup avec le développement de la petite entreprise et l'entrepreneuriat privé, on voit se développer on voit se développer des petits marchands qui ont des licences, des des personnes qui conduisent des tricycles en guise de taxi. Donc quand on m'a posé la question à un homme avec son tirait son tricycle, et on lui parlait des différences de salaire dans le pays, disait le président, le travailleur il est à 20 dollars, le président l'artiste il a 100 000 dollars, le président il a des millionnaires, et puis on lui a dit il a 11 millions d'esclaves. Voilà. Ça donne aussi une idée de représentation que se fait une partie de la population, c'est-à-dire à fonds sociaux dans le pays. On entendra souvent des gens qui vont nous dire à Cuba c'est l'égalité. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils mettent derrière le mot égalité? Ils vont parler, ça va être pour eux, ça va représenter, c'est les services publics. La santé, l'éducation gratuite. C'est le fameux carnet de rationnement qui est égal pour tous. D'ailleurs, qui est égalitaire, parce que on gagne beaucoup d'argent ou très peu. On a une ration qui est assurée. D'ailleurs, c'est une source de gâchis phénoménale. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de ce carnet de rationnement, mais qui vont en abuser, si je puis dire, et qui vont gâcher les produits qu'ils vont récupérer dans les magasins d'État. Pour beaucoup de Cubains, la légitimité du régime et le socialisme, finalement, s'est réduit à des services publics et à une sécurité. Une sécurité qui est source de légitimité pour le régime, c'est-à-dire qu'à Cuba, par rapport au Mexique, ou par rapport à la Colombie, ou par rapport au Venezuela, que les Cubains ont appris à connaître de mieux en mieux, du fait que les seules télévisions, des seules chaînes de télévision non étatiques, soit vénézuéliennes, donc ils ont une ouverture sur ce qui se passe au Venezuela. Une des sources de légitimité du régime, il n'y a pas l'insécurité qu'on a dans d'autres pays d'Amérique latine. Et au moins, on a la santé, l'éducation pour nos enfants, même si, l'éducation n'est pas du tout au niveau qu'on pourrait attendre d'un pays. D'un pays avancé, je dirais. On discutait avec des personnes qui nous disaient les étudiants en psychologie à Cuba ne connaissent pas Freud, par exemple. C'est-à-dire que c'est là aussi où on voit que le régime de parti unique, le régime d'oppression politique, sclérose complètement la pensée. Et évidemment, on va le retrouver au niveau économique. Je vais en finir là. Pour laisser la place à la discussion, et puis on reviendra sur les dynamiques qui sont en cours, peut-être dans le débat, les dynamiques qui sont en cours, le développement de la propriété privée, le développement des mécanismes de marché, le régime politique, finalement aussi des issues qu'on pourrait attendre pour le peuple cubain. Très contrôlé, on va dire. matériel qui explique une partie du défaut de liberté. Mais bon, tu faisais la comparaison de la pauvreté à Cuba avec d'autres pays pauvres, mais on peut faire aussi des comparaisons sur la question des libertés. Il y a beaucoup de pays pauvres, qui sont peu développés, qui sont au même niveau de développement que Cuba, et qui assurent malgré tout des libertés beaucoup plus larges qu'à Cuba. À Cuba, c'est deux organes de presse nationaux qu'on trouve à La Havane, qu'on trouve à Santa Clara, qu'on va difficilement trouver ailleurs. C'est une presse du parti, il y a une presse syndicale, un hebdomadaire de débat politique. En fait, on évoque surtout des questions d'ordre culturel avec quelques reportages photos sur la Sierra, ce genre de choses. On a une télévision qui représente la caricature de. Enfin, c'est une véritable caricature de télévision stalinienne, quoi. C'est du Raoul. Pendant des heures, fidèle, vraiment en ce moment.
On veut le temps, on a nos rêves.
Et on peut avoir des discussions avec certaines personnes, mais les gens se méfient, ils sont en permanence à se méfier. Par exemple, dans un bus, on va parler de choses qui pourraient être complètement anodines. J'ai discuté de la question agricole avec un monsieur dans un bus. Le monsieur, pour me répondre, s'approchait de mes oreilles de façon à ce que personne n'entende. C'est ce genre de comportement qu'on retrouve très régulièrement. Mais ce qu'on retrouve encore plus, c'est un parfait désintérêt pour la chose publique, c'est-à-dire que le régime a réussi à ce que une grande partie de la population se désintéresse complètement des questions politiques. Ce qui revient très régulièrement dans les discussions, c'est moi je ne fais pas de politique, c'est le gouvernement qui fait de la politique. Ce qu'on retrouve aussi souvent, c'est quand on doit aborder des questions de la vie de tous les jours, alors on va parler de problèmes économiques. Alors attention, c'est pas politique, c'est économique. Y compris des personnes qui sont un peu dans le business, dans la vente, revente, réparation de téléphones portables, qui a peu été interdit. Nous dire, nous on n'a rien contre le régime politique, le parti unique c'est très bien, ça permet d'assurer l'ordre. Par contre, il faudrait des réformes économiques, il faudrait l'économie de marché. L'économie de marché avec le parti unique. Voilà, c'est aussi ce qui revient souvent dans les discussions.
Moi je pense qu'il y a vachement de reproches à faire en fait sur le caractère très bureaucratisé, très bureaucratique de l'État cubain. Notamment on n'en a pas parlé, mais il y a un seul syndicat à Cuba qui est contrôlé par le parti. Juste sur l'éducation en fait, moi je trouve la critique un peu faible en fait. Je pense que les médecins de Cuba sont réputés pour être des médecins du monde. Souvent on entend en fait aux États-Unis en fait ils essaient de les appâter vachement avec des gros salaires et tout. Ils ont inventé une sorte de vaccin, bon, pas un vaccin parce que c'est pas un virus, mais contre le cancer, le cancer des poumons. Je pense qu'il y a d'autres critiques à faire que sur l'éducation. Et après j'avais une question aussi parce que moi j'avais discuté avec une cubaine en fait qui parlait d'une opposition à Cuba, qui disait qu'en fait il y a des partis. Enfin, je sais pas si elle m'a dit partis en fait, mais il y a des oppositions en fait. Et notamment il y a des élections de. Qu'il y a des organes un peu démocratiques en fait, qui sont dans les quartiers, il y a des élections, et en fait elle m'a dit qu'il y avait une opposition qui n'est pas beaucoup de voix parce que le régime est super populaire et tout, c'est ce que la cubaine m'a dit, hein, mais c'est une cubaine en France en plus, hein. Voilà.
Peut-être qu'il y a... Il y a peut-être des camarades dans la salle qui s'exprimeront, qui répondront à ces personnes. Comment dire, d'opposition politique, enfin de parti, il n'y en a pas. C'est-à-dire que le parti communiste cubain est le parti unique dans le pays. Ensuite, des oppositions, oui, il y en a. Par exemple, les Dames en Blanc. On nous a parlé à Santiago, de Cuba, des manifestations des Dames en Blanc qui demandaient plus de liberté. Bon, il y a des artistes aussi hein, qui font des performances Place de la Révolution, là, qui leur en a coûté d'ailleurs quelques séjours en prison, préventivement. Ça change que voilà, il y a quand même tous les ans, il y a 2 ou 3 000 incarcérations pour des différents politiques. Différents, parce que parfois ce n'est pas des oppositions, c'est pas des oppositions révolutionnaires. C'est des divergences de tendances. Hein. Dans les années 90, tous les beaucoup d'intellectuels, d'économistes du régime, qui simplement réfléchissaient un petit peu, beaucoup d'économistes du régime qui réfléchissaient un petit peu à des solutions pour faire face à l'embargo, pour faire face aux scléroses du modèle centralisé bureaucratique au niveau économique, et qui se sont retrouvés qui ont perdu leur emploi, qui ont perdu leur logement, qui se sont retrouvés en grosse difficulté. Ce qui est important à souligner, c'est que cette opposition-là, elle ne suit pas d'un soutien important à la population. Il y a beaucoup on va entendre souvent des gens qui vont nous dire on voudrait avoir l'accès à Internet, on voudrait pouvoir voyager. Ça, c'est des choses qui reviennent très fréquemment. Mais par contre, manifester, ça c'est quelque chose de dangereux. Ça, c'est quelque chose de trop radical. Ça, c'est quelque chose que on se désolidarise des actions de manifester. On est à un niveau de combativité vraiment très faible. Cet esprit, cette ambiance, elle est générale, on la ressent partout. Hein, les gens sont placides, ils ont appris à attendre, attendre d'avoir un travail, d'avoir l'autorisation de tel et tel administrateur, tel et tel responsable de bureau. Ils ont appris à attendre le bus, la voiture pour les transporter d'un endroit à un autre. Ils attendent pendant des heures, pendant des demi-journées, pendant des journées entières. Des machines qui arrivent peut-être pas, qui vont tomber en panne. Les gens sont placides. Hein, les gens sont placides. Les gens ne sont pas agressifs. Il n'y a aucune agressivité dans ce peuple. C'est-à-dire que nous en France, on a un tempérament un petit peu vif, on va dire. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va le dire, on va réagir. Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? Les gens, ils vont. La réaction, c'est d'éviter le conflit. Éviter le conflit, éviter les problèmes, éviter la prison. Hein, les gens ont peur de la prison. Ils le disent. Hein, c'est affirmé. On est loin aujourd'hui d'une opposition politique constituée et puis d'une volonté de combativité dans le peuple, d'après ce qu'on a vu. Hein. C'est d'autres retours aussi. Hein. C'est pas, peut-être qu'il y a d'autres camarades qui vont enrichir l'analyse.
Ah, moi justement pour nuancer un petit peu, je pense qu'il y a aussi une différence quand même à Cuba entre les anciennes générations et les nouvelles. Et je pense qu'il y a eu un certain léger assouplissement. Quand on discute, souvent avec les anciennes générations, on a du mal à avoir une pensée qu'on peut juger sincère. L'enjeu, c'est de surtout pas prendre de risques pour pas qu'il y ait de retombées. Avec les jeunes, les plus jeunes générations, personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois quand même d'avoir des discussions plus franches. Où l'hostilité au régime et à la à la dictature de la famille Castro, quoi, bon, était assez ouverte. Bon, et le désir de. Mais souvent le problème c'est que ça se traduit par un désir de soit de partir, soit par, par le comment dire le changement du modèle, de troquer le modèle cubain pour le modèle américain. Quoi. Bon, c'est souvent le problème. Par contre, cette opposition, je pense qu'elle peut exister dans des discussions comme ça, mais jamais organisées. Bon, et surtout pas dans l'entreprise. C'est-à-dire que, par exemple, moi j'ai discuté avec un jeune qui m'expliquait son parcours un petit peu, et bon, qui m'a raconté, bon, et puis plusieurs d'ailleurs, qui me racontaient les rapports extrêmement dictatoriaux dans l'entreprise. Et donc la question des libertés dans l'entreprise, elle est aussi, je pense, très importante, et elle explique toute la déficience et l'inefficacité du modèle cubain. C'est-à-dire que la moindre, dans un certain nombre, dans je pense la majorité des entreprises, l'opposition au petit chef, qui est souvent un tyran, un petit tyran dans son milieu, se traduit immédiatement par le licenciement. Pas d'opposition dans l'entreprise, et donc, puisque je n'ai pas mon mot à dire, bah, je me désintéresse. Je me désintéresse du travail, je me désintéresse de la chose. Et donc, beaucoup d'entreprises publiques qui fonctionnent extrêmement mal. Bon, que ce soit le transport, la restauration ou autre, c'est catastrophique pour l'économie cubaine. Je pense que la question de la liberté aussi dans l'entreprise, la liberté de manifester son opposition aux règles hiérarchiques, aux décisions qui sont prises, elle est très importante pour comprendre l'évolution, la dynamique de l'humain.
Pour être bref, j'ai fait deux séjours donc à Cuba, un qui date de 3 ans et demi, 4 ans, donc 3 semaines, et 2 ans, un séjour de 1 mois. Et je me retrouve dans une partie de ce que tu as dit, mais il y a une autre partie dans laquelle je ne me retrouve pas. Je suis sympathisant du coup hier, donc c'est pas pour avoir des divergences politiques avec toi. Moi j'ai vu, je suis allé avec des a priori, on m'avait dit qu'il y avait plein de prostituées, on m'avait dit que. Qu'il y avait de la pauvreté, qu'il y avait de la mendicité. Je n'ai vu aucune prostituée. D'accord ? Je n'ai même vu aucune. Après, qu'est-ce qu'on appelle une prostituée ? Une prostituée, c'est une personne qui fait une démarche sexuelle auprès des hommes. Ça peut être aussi un homme qui fait une démarche sexuelle auprès d'un autre homme, une femme, pas de sexisme. Mais je n'ai pas vu ça. On m'avait dit qu'il y avait une extrême pauvreté, des gens qui faisaient la manche de partout. Je suis allé en Tunisie, je suis allé avant 89. Dans les années 86, j'étais en République tchèque, j'ai vu des enfants d'Europe, des enfants de, on va dire aujourd'hui, des gens qui sont des gens qui vivent en roulotte, qui voient des nomades, et ces gens-là, il y avait des enfants qui mangeaient de la terre, c'était en République tchèque. Voilà, ça j'ai pas vu de gens, d'enfants, j'ai pas vu d'enfants dans la rue. Il y a marrant, République tchèque, des enfants des gros ventres, comme en Afrique. Ça c'est incroyable. Et alors qu'à Cuba, j'ai pas vu ça. J'ai vu des écoles de partout. Des écoles qui sont bizarres d'ailleurs. C'est des anciennes, bien souvent des anciennes casernes. Il y a la maternelle va être dans une pièce, le CP va être dans une autre, dans la même rue, dans un autre bâtiment. Et après, là où je me retrouve avec toi, c'est les crépits des bâtiments dans Cuba. Il y a eu, peu de temps avant qu'on arrive, il y a 3 ans, il y a eu un genre de tsunami qui a fait des morts d'ailleurs à Haïti. Il y a eu aussi des morts à la République dominicaine, et à Cuba, il y a eu très peu de morts, je crois qu'il y en a eu 3. Alors que c'est les mêmes pimpons, c'est le même climat qu'à Haïti, qui est juste à côté. C'est ce que je veux dire. Après, là où je ne me retrouve pas non plus, c'est que l'embargo, le sable cubain, il le désoie, il passe de l'eau dedans. Il y a des coquillages, et dans les coquillages, il y a du sel. Et quand on mélange du ciment avec du sel, et ben, ça fait beau 10 ans, ça fait beau 20 ans, et après le crépit tombe. Et ils en sont là. Ils n'avaient pas de sable, c'est salé. Donc c'est des petites choses comme ça. Il ne faut pas oublier en plus que Castro, c'était la troisième ou la quatrième famille la plus riche de Cuba, étant donc le dictateur. Donc la question c'est qu'est-ce que ce mec milliardaire, multimilliardaire, est allé se faire chier à rendre son île indépendante. En fait, il n'est pas du tout communiste, c'est un nationaliste. Il n'y a pas de rue Marx, il n'y a pas de rue Lénine. Alors, on ne parle pas de la rue Trotsky, bien entendu. Ça même pas qui est Trotsky. Vous voyez, il y a une personne qui disait qu'il ne savait pas non plus. Non, mais c'est hallucinant au niveau de le niveau politique qu'ils
toutes les sauces. Mais on n'entend jamais parler de Mars, on n'entend jamais parler de Vénus, et ni encore moins d'Antiax, etc. Toutes nos figures, toutes les personnes qui ont écrit sur le sujet sont complètement gommées, ça n'est pas enseigné ça à l'école. Voilà. La mondicité, c'est certain, je pense qu'elle est illégale. Elle est illégale. Donc, il y a certaines villes quand même où on peut en voir quand même. La prostitution, c'est pareil. Elle est illégale. Alors ensuite, quand vous passez des elle est illégale, mais voilà. Quand on voit passer des vieux américains ou canadiens avec des jeunes cubaines pimpantes habillés blancs, la question est de ne pas avoir d'illusions sur la réalité des choses. Bon, alors évidemment, c'est pas officiel, elles ne peuvent pas être sur le trottoir comme on a en France. Et puis attendre le client, c'est dans des bars, c'est caché, mais grattons un peu la surface pas d'illusion à avoir. Par rapport à l'éducation et la santé, certes il y a des secteurs à Cuba qui ont été plus développés que dans un certain nombre de pays sous-développés. Mais quand on discute avec la majorité des Cubains, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que le socialisme? Quel avantage? Qu'est-ce que le socialisme pour eux? C'est éducation, saludad et nada más. Nada más. Nada más. Voilà. Rien d'autre.
Oui, concernant la prostitution, alors on n'a pas du tout le même retour. Hein. D'être vêtu parti à Cuba en couple, c'est possible, je ne sais pas. Mais ça a une grosse. C'est important de voir. Parce que quand on est seul, qu'on soit homme ou femme, c'est-à-dire qu'on est abordé en permanence. C'est-à-dire qu'on est sollicité en permanence. On va au restaurant, il y a des gros bras là, des rabatteurs, qui vont nous proposer des filles dans des bordels, etc. Les boîtes ou les endroits dansants dans les villes cubaines, y compris les villes qui ne sont pas touristiques, par exemple Guantanamo, c'est pas une ville touristique. Toutes les femmes sont destituées dans ce type de lieu. Hein, bon. Et puis je parle pas des rapports humains qui sont complètement pourris, par la misère. Alimentés par le tourisme, évidemment. Le tourisme étant l'objet des différentes demandes, des revendications des personnes qui sont dans le besoin. Donc toute discussion qu'on va avoir vont être intéressées. Les plus anodines. En tant que touriste, c'est très agréable. La situation est assez catastrophique à ce niveau-là. Te répondre aussi concernant ce qui est revendiqué, l'idée revendiquée par Fidel, l'idée revendiquée par Fidel, c'est pas simplement le nationalisme. C'est le socialisme et c'est le communisme. C'est-à-dire quand tu lis les discours de Fidel Castro, effectivement, il y a des références systématiques à José Martí. Étant le libérateur, une des figures de libération nationale de l'île, mais une des principales, un théoricien, et un poète. Fidel Castro et le Parti communiste cubain se réfèrent explicitement au socialisme et au communisme. Voilà, le socialisme, en fait, la question est qu'on pose. Et finalement, un voyage à Cuba, ou hier, dans d'autres pays d'Europe de l'Est, en Union soviétique, nous fait poser la question, mais qu'est-ce que le socialisme? Est-ce que le socialisme se réduit à la transformation des rapports de propriété, à la révolution dans les rapports de propriété, à la socialisation des moyens de production et d'échange? Ou pas? Parce qu'à ce niveau-là, Cuba est un modèle de socialisme, un grand modèle de socialisme. Hein, ils ont socialisé l'intégralité des moyens de production et d'échange. C'est toujours dans la Constitution, même si elle a été modifiée, même si la Constitution de 72 a été modifiée dans les années 90, pour laisser la possibilité à des pays, à la petite entreprise, mais une petite entreprise à qui on a interdit pendant longtemps de salarier qui que ce soit. Ça nous fait poser cette question-là. Dans les discours de Fidel Castro, ce qui revient souvent, c'est bien sûr la séparation, la référence à la séparation entre la première phase du communisme et la deuxième phase du communisme, le socialisme et le communisme. Et à ce niveau-là, la question qui se pose pour nous, c'est quoi le programme socialiste? C'est quoi le programme de transition socialiste? Est-ce qu'un programme de transition socialiste peut, accepter les inégalités sociales qu'on connaît aujourd'hui à Cuba, ou bien connu dans d'autres pays d'Est, qui évoque d'ailleurs dans un chapitre intéressant de Nick Lee, dans l'Union soviétique, une transition socialiste, est-ce que dans le cas d'une transition socialiste, on peut accepter ce type d'inégalité? Est-ce qu'on peut accepter une oppression, la répression d'un parti unique, mandataire, des intérêts des travailleurs? C'est toutes ces questions-là qui se posent à nous. Fidel Castro revendique le socialisme, le Parti communiste cubain revendique le socialisme, comme les Chinois aujourd'hui encore. Et la question c'est là, c'est-à-dire que c'est c'est le contenu du socialisme. Quel programme d'action du socialisme là. C'est nul. Enfin bref, pour répondre plus précisément à ta question, il y a beaucoup de chômage, des millions de chômeurs, peut-être la moitié de la population active, hein, sachant qu'il y a beaucoup de femmes qui sont au foyer, donc évidemment ça, c'est, ça permet aussi de les élargir des statistiques. Hein. Officiellement, il y a 10% de chômeurs, mais bon, il ne faut pas en croire un mot. Et les emplois, eh ben, ils sont en général, pour entrer dans une entreprise ou une administration, bah, il faut avoir l'aval du parti, quoi. Voilà, il faut être bien avec la hiérarchie, bon, du parti ou du syndicat. Enfin, en tout cas, les meilleures places, c'est comme ça qu'on va les trouver, bien sûr. Hein, voilà.
Ce panorama qui est triste, désolant pour ce pays soi-disant présente le socialisme, hélas, il est correct. Moi, je suis allée à Cuba, j'ai beaucoup d'amis cubains. Même ces acquis de ce gouvernement, de cet État qui est membre, pour moi, n'est même pas l'État ouvrier dégénéré, qui n'a jamais été un État ouvrier, où il n'y a jamais eu soviet, de conseiller ouvrier. Dès le départ, ça a été Fidel Castro qui. Avait le pouvoir, et d'ailleurs pour nos amis d'extrême gauche guévaristes, avant de partir faire la révolution ailleurs, le Che, il a été ministre du plan, il décidait, jamais il y a eu des conseils ouvriers qui ont décidé, donc effectivement à force il y a une sorte de spirale, les gens ne sont pas motivés, et je ne parle pas de la motivation capitaliste, mais les gens ne décident de rien, et ils sont en proie effectivement aux petits chefs, bon, c'est un des aspects. Et ce qui est terrible, c'est que comme en plus il y a un pays impérialiste, et ça, bon, je pense qu'effectivement le seul soutien que nous on donne à Cuba n'est pas politique, mais face à l'impérialisme, au moins n'aurait dû l'être de notre part, c'est vrai qu'il y a un coup de l'embargo, il y a une oppression, mais ça n'explique pas tout, voilà. Et je pense que c'est vraiment, vraiment un problème, parce qu'on a raté pendant des années, en fait, c'est un régime stalinien là, il n'y a pas de goulag, certes, mais on a raté la possibilité d'essayer de transformer depuis 50 ans et de faire une révolution socialiste. Et maintenant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que tous ces gens qui disent à la fois qu'ils sont socialistes, oui, le programme, il est socialiste, communiste, mais y a pas, non seulement on ne lit pas Trotsky, mais on ne lit pas Lénine, les gens sont complètement dépolitisés, n'ont même pas d'armes pour lutter et pour empêcher la restauration du capitalisme, qui en ce moment, et on peut dire là depuis quelques mois, puisqu'il y a une ouverture, il y a eu des joint ventures en 92, maintenant c'est une véritable restauration du capitalisme qui est à l'ordre du jour. Et donc, ça va être comme en Chine, un parti unique encore pour quelques temps, et une restauration totale. Donc, c'est quand même. Oui, c'est très triste, et je suis très triste que l'extrême gauche, le parti d'extrême gauche, ait été aussi passive face à ce qui s'est passé à Cuba, et nous ait vendu des salades pendant autant d'années, parce qu'on pouvait faire une révolution, on pouvait faire la révolution, et on ne s'est pas donné les moyens de la faire, et c'est sûr que maintenant, il y a. Des politisations, ça me semble très très dur. Les gens veulent la restauration du capitalisme parce qu'ils en ont marre. Ça fait 50 ans qu'ils essaient de manger correctement sur une île. Vous, les touristes, vous mangez peut-être des fruits, mais moi j'ai vécu chez les Cubains. On ne mange pas de poisson, on ne mange pas de fruits. Voilà. Et les travailleurs, on ne leur a jamais demandé si décidez-vous, on veut une société socialiste, on veut décider de ce qu'on produit, comment on va le produire. Ça n'a jamais été comme ça, Cuba. Donc les gens, ils aimeraient un jour décider. Et c'est vrai qu'il faut, je pense qu'il faut continuer à aller à Cuba et quand même essayer de pousser les choses, sinon ça va être vraiment l'horreur. Parce qu'il y a une grande soif de revanche aux États-Unis. Tous les capitalistes du monde sont prêts à Hollande et à aller faire son petit show. Et vraiment là, ils vont s'en prendre plein la figure. Et en plus, pour nous, en tant que communistes révolutionnaires, c'est terrible parce que ça salit le socialisme, ça. Voilà. Donc il faut, en revanche, il faut continuer. continue à y aller parce que je pense que maintenant, on est quand même, il faut quand même essayer de pousser les gens. Ils sont à la fois très dépolitisés et en même temps, ils sont ouverts à ce qu'ils ont été tellement isolés, ils sont ouverts. Et moi, je pense qu'il faut y aller maintenant et essayer de faire avancer nos idées là-bas. Donc, aller en vacances là-bas et pour qu'on n'ait pas le capitalisme sauvage.
Pour les solutions de guerre de libération d'Afrique au profit d'autres pays, au profit du pouvoir de Moscou, etc. Ça, on n'en parle pas beaucoup.
Dans les années, au milieu des années 80, Ben Saïd a fait un article sur Cuba où il expliquait que les différentes déclarations de Fidel Castro illustraient l'attachement du régime au projet révolutionnaire, à la révolution permanente. Et que à Cuba, la question, effectivement, ce qui était la tâche des militants de la 4e internationale, n'était certainement pas d'organiser la révolution, mais peut-être de faire évoluer par les réformes successives le régime. Bien heureusement pour lui, Ben Saïd n'était pas à Cuba, pour soutenir ses positions à peine critiques, parce qu'il aura fini comme les militants du groupe Posadas, emprisonné. À Cuba, pour nous, il y a une révolution à faire, pour ce régime, pour le socialisme qui est inséparable, s'identifie exactement avec un programme d'égalité sociale et avec un programme de gestion de la production par les travailleurs, qui s'identifie avec un programme de démocratie directe, d'un pouvoir travailleur, d'une association libre des producteurs et consommateurs. Et cette révolution-là, elle est politique et puis de fait, elle est aussi sociale, parce que il s'agit de remettre en cause et d'exproprier une couche sociale qui jouit aujourd'hui de grands privilèges et qui est à la tête de la nation cubaine.
Évidemment, je partage tous les constats qui ont été évoqués sur le drame de Cuba. Après, je pense qu'il y a aussi, je pense qu'il faut aussi rester objectif sur ce qui est le reste de l'Amérique du Sud. Nous, on a une camarade en fait qui est allée au Nicaragua et qui nous racontait des trucs en fait hallucinants sur des enfants qui à 12 ans entrent dans des bandes armées en fait, qui à 13 sont déjà morts. Il y a des trucs aussi à relativiser. Ça n'empêche pas tous les constats. Je partage tous les constats qui ont été faits. Et je pense que Cuba, en fait, c'est un très bon laboratoire en fait, qui peut nous donner qui est très très intéressant pour voir ce que donne une direction réformiste qui est poussée par sa base jusqu'à la révolution et qui finit en gros organes bureaucratiques.
Ma question va te paraître un peu stupide et j'attends pas de réponse. Vous êtes allé tous à Cuba et je voudrais savoir si vous avez vu de copines cubaines pendant votre séjour.
Non, certainement pas.
Aucune cubaine pendant votre
séjour. Menteur. Les deux comprendre que le réchauffement climatique est un peu plus partout en Occident. Quelle place a la réchauffement à Cuba ?
L'Église catholique, plus exactement, a un rôle d'intermédiaire entre le régime cubain et puis l'impérialisme américain et d'autres impérialismes français, par exemple. Au niveau national, la religion, l'Église catholique a été pendant longtemps interdite. Et aujourd'hui, la place de l'Église paraît assez marginale. Il y a des messes, les églises sont ouvertes, mais il y a pas une grande
grande vigueur du côté de l'ex-catholique. A contrario, dans les régions les plus pauvres et rurales de Cuba, notamment dans la région de Guantanamo, donc à l'est du pays, autour de Santiago, etc. Donc là, on a un mouvement anabaptiste très fort, très populaire dans la paysannerie, très généreux aussi d'ailleurs, qui joue un petit peu, qui joue un rôle socialisateur dans le pays, qui a l'image un petit peu des mouvements de ce type dans les autres pays d'Amérique latine, hein, c'est-à-dire avec un contenu social et politique complètement effacé.
Bon bah voilà, on va conclure. Donc pour conclure, je dirais bien que ce qui est dans notre projet pour nous en France, quand on défend le socialisme, ce qui est vital, c'est de pas seulement mettre en avant les formes de propriété socialiste, évidemment, mais le contenu du régime qu'on veut en termes de liberté hors de l'entreprise et dans l'entreprise, de contrôle du salarié sur la production, et surtout en termes d'égalité. Bon, l'égalité sociale, ça doit être au cœur du projet qu'on défend. Donc ça peut se traduire par différentes mesures, revendications. Nous, on propose une échelle de revenus dans notre programme de 1 à 4, donc un revenu maximum, la mise en place d'un revenu maximum. Je pense que cette revendication-là et l'idée de l'égalité sociale, elle doit être vraiment constitutive de notre projet, de notre modèle socialiste. Voilà, à Cuba, avec des inégalités de 1 à 10, à 20, à 50 ou à plus, si on prend la famille Castro, je pense, c'est le socialisme, mais pas le socialisme, tout simplement. Ou alors,